Bah bonjour à toutes et à tous. Je me présente, moi je suis Laurent Baudry, je suis responsable d'un service RH au Conseil Régional d'Île-de-France. Je suis aussi membre d'une FPTE et du LIER, que vous connaissez sûrement, qui est une autre association de professionnels de l'action publique, et copilote du groupe de travail RH et Transition écologique, qui est partagé entre les deux associations. Donc l'idée de cette table ronde, elle parle en fait d'une réflexion commune et d'une conviction partagée aussi à une FPTE, que les organisations publiques, dans les trois fonctions publiques, doivent se saisir des enjeux de transition écologique et solidaire, pas seulement, et on l'a bien dit avant, et l'enquête le dit beaucoup, pas seulement dans les politiques publiques, mais aussi en interne, dans les organisations, dans ses moyens, etc. Parce que bon, pour rappel quand même, hein, les administrations, ça représente pour chaque Français 1,3 tonnes d'équivalent CO2 sur les 10 qu'on consomme en moyenne. On a un objectif à 2050 d'être à 2 tonnes, donc il faut que les administrations, en tant qu'organisations elles-mêmes, de toute façon, bougent, même au-delà des politiques publiques qu'elles mettent en œuvre. Alors, notre scope pour cette table ronde, ça ne va pas être seulement le climat, hein, mais vraiment, pour les RH, une réflexion aussi pour elle sur toute la transition écologique, donc aussi sur l'impact de l'action des administrations, de ses agents, sur la biodiversité, sur les sols, sur l'utilisation des ressources, bref, sur toutes les limites planétaires. Donc on est assez ambitieux, parce qu'on part du constat, et je pense que l'enquête l'a très bien illustré, que l'intégration de la transition écologique dans les organisations, la mise en administration finalement de la transition écologique, c'est vraiment un impensé. Or, et c'est un peu notre conviction aussi, sans sensibiliser, informer, former les agents, sans anticiper l'évolution des métiers, sans donner de direction claire et concrète, sans donner du sens, sans avoir vraiment une approche systémique, en fait, on ne fera pas la transition écologique, parce que on aura des évolutions législatives, des compétences données à tous les niveaux administratifs, les collectivités, l'État, la fonction publique hospitalière, des lois vertes, entre guillemets, mais si les agents n'ont pas de direction claire, on l'a vu, hein, d'ailleurs, c'est vraiment le paradoxe qui pointe dans l'enquête, on n'arrivera pas à faire cette transition écologique. Donc nous, on pense que pour le faire de manière opérationnelle, cette mise en administration, il faut que ce soit porté par une direction qui a une vue à 360 degrés, qui dialogue avec l'ensemble des autres services, qui a un certain nombre d'outils et de leviers à disposition. Donc vous l'aurez compris, pour nous, le candidat idéal, c'est la direction des ressources humaines. Avant de vous présenter les intervenants, je veux dire que cette réflexion à une FPTE et au LIER a mené à la rédaction d'un guide qui s'appelle les DRH au service de la transition écologique, qui va être publié là tout de suite maintenant après cette table ronde si vous êtes intéressé. Donc un guide qui fait à peu près 80 pages, donc on vous reparlera un petit peu plus après. Je vais donc d'abord vous présenter tous nos intervenants. Donc d'abord Léonie Ritzenthaler, qui est secrétaire générale adjointe donc à la CFDT Fonction publique, référente transition écologique juste, et donc auparavant professeur des écoles. Arnaud Vauquier, qui est DGA ressources du CIPEREC, qui est le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication, en charge donc notamment des RH, et ancien des RH, si je ne dis pas de bêtises, et membre d'une FPTE. Et puis Christine Moreau, ambassadrice à la retraite, vice-présidente d'une FPTE, membre de son GT Formation, grande co-rédactrice du fameux guide dont je vous ai parlé juste avant, donc on aura l'occasion évidemment de présenter ce guide. Donc on va prendre un petit temps de questions aux différents intervenants, et après on vous laissera aussi l'occasion de nous interpeller sur les différents sujets. Donc moi, la première question que je veux vous poser, c'est pourquoi, voilà, selon vous, les directions des ressources humaines doivent-elles vraiment s'emparer du sujet de la transition écologique et solidaire, hein, on l'a dit. Léonie, si vous voulez bien commencer.
Oui, donc pour la CFDT, mettre en place un plan opérationnel pour permettre aux services publics d'assurer leur mission face aux enjeux de transition écologique, ça doit être une priorité collective qui doit mobiliser tous ceux qui veulent faire le levier. On l'a particulièrement vu lors de la crise sanitaire de 2020. Les GRH jouent un rôle crucial en période de crise. Et plus globalement, à travers ces deux grandes missions, Donc les DRH se jouent un rôle majeur pour faire pivoter leur service administration de par leur fonction support dans un premier temps, en rendant opérationnel le respect des obligations légales et réglementaires, dont les déclinaisons de plans de planification écologique de manière juste et inclusive, et c'est parfois un peu compliqué, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, un jour on nous dit blanc, l'autre jour on nous dit noir, il y a des volontés politiques plus ou moins fortes, que ce soit au niveau national ou local, il y a des budgets qui sont là une année puis qui disparaissent l'année d'après, il y a des conflits aussi parfois entre les décisions qui sont prises au niveau national, local et un empilement de demandes qu'on, des fois on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut prendre en premier, satisfaire en premier. Et pour la deuxième part, il y a tout ce qui est fonction stratégique, donc les métiers verdissants, que ce soit des nouveaux métiers comme responsable de transition écologique ou des parties de métiers qui sont obligées de changer parce qu'elles ne sont plus en adéquation avec les attentes et ce qui va arriver prochainement. Les nouvelles compétences qui sont liées à la transition écologique, donc par exemple les agents qui sont chargés de l'entretien des espaces verts, dans la territoriale par exemple, qui doivent s'adapter à des nouvelles normes d'utilisation ou de non-utilisation de certains produits phytosanitaires. La formation, on l'a vu, c'est très important et très demandé par les agents pour donner un sens commun à l'action et comprendre en fait tous les tenants et les aboutissants de la transition écologique et surtout d'éviter les malfonctions qui coûtent de l'argent et sont très délétères pour la transition écologique. Tout ce qui est modalité de travail, donc les équipements comme donner des ordinateurs à tout le monde pour pouvoir faire du télétravail. On s'est rendu compte par exemple à l'éducation nationale que c'était pas forcément le cas pour tout le monde. Les modifications d'espace, donc avec l'apparition dans certaines administrations de bureaux collaboratifs au lieu d'avoir chacun son espace et d'organiser aussi le temps de travail par rapport à ces espaces collaboratifs. Le temps, on vient de le dire, et tout ce qui est les questions de mobilité, notamment l'accessibilité aux mobilités douces, qui n'est pas encore le cas partout. Et puis, tout ce qui est les questions de santé et de sécurité au travail, notamment au regard du changement climatique, les périodes de canicule et les tempêtes, se rapprochant de plus en plus avec une intensité de plus en plus forte. Il faut aussi absolument qu'on arrive à travailler là-dessus et pas juste attendre que ça nous tombe sur le coin de la tête pour pouvoir mettre en place des choses. Et toutes ces pratiques doivent être interrogées avec les partenaires sociaux. Parce que plus on a de partenaires, plus on c'est quoi déjà la phrase ? Ensemble on va plus loin. Donc vraiment pour avoir des professionnels de tous bords, que ce soit les agents qui sont eux-mêmes professionnels, il ne faut pas l'oublier, les organisations syndicales, des partenaires opérationnels. Des associations, donc tout ça travailler avec un nouveau prisme et pas juste rajouter la transition écologique par-ci par-là, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment interroger toutes nos pratiques à travers le prisme de la transition écologique et permettre à tous les agents de travailler dans des conditions durables et désirables.
Merci. Pourquoi les directions des ressources humaines doivent être s'emparer de la transition écologique?
Parce qu'elles n'ont pas le choix, je crois. Elles n'ont pas le choix parce que très clairement, on vit dans un monde en mutation. La transition écologique en est un, mais il y a plein d'autres sujets, notamment le sujet du travail. Ce qu'on peut vivre aujourd'hui au quotidien, c'est des problématiques comme celle de la cohabitation de seniors, de plus en plus âgés au travail avec la réforme des retraites, et puis de jeunes générations qui posent des réels problèmes aux managers dans la gestion quotidienne des relations. Des relations sociales de la collectivité. Moi, j'ai par exemple un ingénieur des mines qui s'occupe de projets de géothermie profonde qui nous a annoncé il y a quelques jours qu'il allait nous quitter pour aller faire du théâtre. Donc ça, c'est le genre de problématique qui peut se présenter dans nos services et poser des questions aux managers. Donc il y a cette histoire générationnelle, il y a cette question du numérique. Alors, je ne vais pas prononcer le mot magique que tout le monde prononce en ce moment, parler d'ordinateur quantique pour changer. Mais il y a très clairement une accélération des transformations, et notamment due au numérique, qui vient percuter aussi le travail. Donc le DRH, comment doit-il s'emparer de cette incertitude? Lui qui est censé fixer un cadre, ça présente pour lui une relative, et pour elle, pour le DRH, pardon, la DRH, j'ai parlé de la DRH parce que je suis engagé pour les qualités par ailleurs, donc je vais plutôt dire ça. Ça pose pour la DRH des questions de fixer un cadre rassurant dans certains environnements incertains. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est parce qu'on est déjà immédiatement touché. En vous écoutant, je me faisais la remarque tout à l'heure, j'ai suivi un cycle à notre école d'application, donc l'INET, qui s'appelle le cycle supérieur de la transition. Dans le cycle supérieur de la transition, j'ai trois collègues qui, en suivant le cycle, ont été directement touchés par des catastrophes ou par les problématiques structurelles, climatiques et autres. Puisque l'un, dans le Léman, a été confronté à une espèce invasive, l'autre, en Isère, a eu des villages détruits par des écoulements, et la troisième, dans le Nord, a été soumise à des inondations. Ça, c'est pour le. Donc, ça veut dire qu'en un an, on a quand même connu ça. Moi, j'ai connu il y a quelques temps, je m'occupais de crèches et de services à la population. Donc, le truc, c'était de mettre des couvertures de survie sur les fenêtres parce qu'il faisait trop chaud. J'avais la même problématique avec les agents d'entretien dans les écoles, dans les restaurants scolaires. La problématique alimentaire en est une autre. Ça veut dire que déjà aujourd'hui, nous sommes impactés par les problématiques environnementales et la DRH a ses sujets à vivre. La DRH, pourquoi elle doit se mobiliser? Parce qu'elle a beaucoup de leviers. On y reviendra. La formation, le premier levier. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La prévention. Et plein d'autres. Le temps de travail, la mobilité, l'évaluation. La DRH porte des valeurs. Porte des valeurs du collectif. Donc, doit s'assurer de l'alignement de l'ensemble de l'organisation sur ces valeurs. Et puis, la DRH est soumise à un enjeu très fort, et on l'a abordé, c'est celui de l'attractivité. Il y a une enquête très récente qui va sortir, le premier pan de l'enquête qui a été réalisé auprès des directeurs généraux de collectivités, qui montre que c'est leur préoccupation numéro un aujourd'hui, c'est de recruter des collaborateurs compétents. Voilà ma réponse sur ce sujet.
Merci. Je vais passer la parole à Christine pour une autre question. Comment les RH peuvent-elles être partie prenante d'une réinterrogation, cette fois de la gouvernance même des organisations publiques, et comment elles vont réinterroger le management?
Alors, si vous me permettez, je voudrais faire un petit pas de côté, et avant de répondre à cette question-là, réfléchir avec vous sur ce que justement la transition écologique peut apporter à la réflexion sur la gouvernance et le management. Parce que je crois que c'est évident que l'évolution de la gouvernance et du management, bon, qui sont deux aspects finalement qui vont ensemble dans l'évolution, je dirais, d'une façon générale de voir les pratiques administratives, on est déjà dans la réalité par rapport à ça, pour répondre notamment à toutes les tensions qui ont été évoquées, les différentes transitions, les attentes des agents et notamment des jeunes, les attentes des usagers, etc. etc. Donc il se trouve que la transition écologique, c'est un très bon modèle par rapport ces nouvelles façons d'envisager la gouvernance et le management pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la question de la transversalité. Vous connaissez bien la thématique, le caractère systémique, bon voilà. En fait, on se rend compte qu'on ne peut pas traiter de la transition écologique en la prenant petit bout par petit bout. Si on parle de l'adaptation, il faut parler aussi de la biodiversité, puis il faut parler aussi de la lutte contre le changement climatique. Enfin, voilà. Si on parle d'écologie, il faut aussi parler, on l'a vu dans notre enquête en particulier, de lutte contre les inégalités, que ce soit les inégalités entre les agents, que ce soit les inégalités par rapport aux usagers de la fonction publique ou d'une façon plus générale dans notre société. Donc la transversalité, c'est un guide à la fois pour la transition écologique et pour la gouvernance et le management. Ensuite, il y a la question de la prospective, puisque avec la transition écologique, on sait quelle est, je dirais, la direction, mais on sait que les choses vont s'aggraver dans les prochaines années. C'est inévitable, et même si on faisait les efforts les plus parfaits, compte tenu de l'effet retard, on sait qu'on a à faire face à une période où, de toute manière, les choses vont s'aggraver. Donc, il faut non seulement prévoir comment on répond à la situation maintenant, mais aussi dans les prochaines années. Et puis, il faut aussi prévoir l'adaptabilité, ce qu'on appelle aussi dans les ressources humaines l'agilité, parce que les savants du GIEC nous le disent très bien, on ne sait pas exactement la façon dont les choses vont évoluer, en particulier parce qu'on ne sait pas... c'est tellement complexe les questions climatiques et environnementales que on ne sait pas si on va avoir peut-être plus de canicules ou peut-être plus de crues ou peut-être plus de tempêtes. Enfin bon, voilà, il y a cet élément d'incertitude dans le futur auquel il faut aussi que l'on se prépare. Et voilà, en gouvernance et en management, eh bien, on doit également intégrer l'incertitude. Et une question qui nous motive beaucoup dans l'association, la transition écologique exige que l'on mette les agents au centre du dispositif, parce que on a justement toute cette complexité, et on sait très bien que c'est pas avec des ordres qui viendront du sommet qu'on va pouvoir réaliser la transition écologique. Il faut absolument que les questions soient comprises par tous les agents, la formation, etc., que ça soit partagé, c'est-à-dire qu'ils s'approprient en quelque sorte cet enjeu et qu'ils aient leur part d'initiative pour proposer des réponses. Et en tout cas pour participer au mouvement en toute conscience, en prenant en compte ce qui est possible, faisable, etc., dans les réalités du service, c'est-à-dire au niveau de la base, avec une démarche qui soit beaucoup plus bottom-up, comme on dit, que top-down, ou en tout cas qui fasse sa part au bottom-up. Alors, en revenant à la DRH, eh bien, effectivement, les outils de la DRH, ce sont ceux que l'on peut mettre en œuvre. Elle peut servir en fonction de ce qui aura été décidé au niveau de la structure, soit de pivot, soit de leader. Ça, c'est une question, je dirais, qu'on ne peut pas trancher, mais en tout cas, au minimum, la DRH sert de pivot parce que son métier, c'est l'utilisation judicieuse des ressources humaines, c'est-à-dire en quantité, mais aussi en qualité et aussi en prospective, ça fait partie de son métier. La compréhension et le partage des enjeux, eh bien, ça passe par la formation et ça passe aussi par le dialogue social. Tout ça, ce sont des compétences de la RH. Et puis, l'évolution du management, ça passe aussi par la formation et par peut-être un nouveau sujet qui est le management du management, puisqu'il faut amener l'évolution des modes de faire des managers. Voilà.
Merci. Et puis, c'est là, effectivement, où les ressources humaines ont tout leur rôle, hein, pour faire ce management du management, pour aussi valoriser les initiatives des agents. Elles peuvent être vraiment ce levier, hein, pour qu'on puisse reconnaître l'investissement. Je pense que toutes et tous, vous êtes investis là où vous êtes et c'est pas forcément facile de le faire reconnaître. Et les RH peuvent être un allié pour ça. Arnaud Wauquiez, si vous voulez aussi.
Oui, je voulais faire un pas de côté aussi. Parce que moi, c'est vrai que je parle quand même de grosses collectivités ou de collectivités urbaines transilienne. Donc c'est aussi une précaution à avoir parce que toutes les DRH ne sont pas situées non plus sur le même plan et n'ont pas les mêmes libertés d'action ou les mêmes possibilités d'action. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie parce que ça me semble très important sur la capacité à transformer les choses ou à faire tout petit pas, on va dire. J'ai oublié tout à l'heure dans mes collègues là, de la formation, la collègue de l'Ardèche aussi, pour les inondations. Donc c'est quand même sur 24 touchés par des événements majeurs. Comment la DRH peut transformer? Ben déjà en se pensant capable de conduire et d'accompagner les transformations et pas simplement de gérer des dossiers administratifs. Ça, il me semble que c'est une première entrée et contribuer au projet politique et au projet d'établissement. La deuxième, c'est donc se professionnaliser. Ça veut dire pour la DRH, se former, se mettre dans des réseaux, développer des compétences, et puis c'est se faire soutenir aussi. Parce que si on demande de l'engagement à la DRH, il va falloir qu'elle puisse avoir du soutien de pair, du soutien de coach, pourquoi pas envisager ce genre d'accompagnement, parce que c'est des changements majeurs que la DRH va devoir accompagner. En participant à l'évaluation et au fonctionnement de l'organisation, c'est l'évaluation individuelle, à travers des fiches d'évaluation individuelle et collective qui pourra intégrer des critères écologiques. C'est aussi en dégageant des marges de manœuvre financières. On a parlé d'attractivité comme un des points bloquants, on a aussi la question des sous. Comment la DRH se positionne sur, parce qu'on est souvent sur du court terme, on adore ça, mais sur des échéances un peu plus tardives en intégrant des coûts complets. Et comment la DRH participe à ça? Je pense qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour la DRH d'aller chercher des marges de manœuvre financières, ou en tout cas d'identifier des problématiques financières. Moi, je crois beaucoup au contrôle de gestion, j'ai cette passion-là, je ne sais pas pourquoi. Et je crois assez à un contrôle de gestion vert qui permettrait de prendre des décisions beaucoup plus éclairées et d'évaluer les mesures qui sont prises à l'échelle des collectivités. Massifier la formation, ça me semble hyper important. Notamment la formation des élus. On l'a dit, les élus peuvent être des freins. Pareil, j'ai un collègue qui s'est heurté à des problématiques de construction d'autoroutes à la frontière avec la Suisse. Il a réussi à dépasser ces problématiques, pas de renoncement à l'autoroute, mais cependant, la capacité, grâce à des expériences partagées avec des collègues, d'embarquer quand même les élus sur des réflexions. Donc il y a quand même des petites marges de mobilisation, de changement, de transformation qui peuvent s'opérer auprès des élus pour essayer d'infuser et puis d'être moins dépendant. J'avais une question sur l'enquête, c'est d'ailleurs s'il y avait des effets préélectoraux de l'enquête. On pourra peut-être y revenir. Je pense que la DRH doit être au cœur des métiers. Moi j'ai une carrière qui est à la fois RH et service à la population. Je pense que les RH doivent être dans les services. Je pense que les RH doivent être sur le terrain. Je pense que les RH doivent vraiment être en capacité de mesurer les enjeux de terrain des opérationnels et des problématiques que peuvent présenter les questions environnementales et sociales dans la relation à l'usager, notamment dans une politique tarifaire ou autre. La DRH, je crois, doit être aussi identifier les risques. Moi, il y a un élément majeur, dans les outils, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je parlais de la prévention, mais le document unique d'évaluation des risques me semble hyper important à être travaillé de manière vraiment très fine et très transverse, notamment avec la représentante du personnel en dialogue social, pour trouver des solutions ensemble, rassurer sur la capacité de la DRH à accompagner la transition. Notamment rassurer les élus et les directeurs généraux. Maintenant, je suis en direction générale et je sais à quel point ça peut être important d'être rassuré parce que ce sujet fait peur, sans se mentir. Alors, si je devais résumer ça en disant comment les organisations doivent évoluer, je dirais être plus démocratique à tout niveau, c'est-à-dire politique, au niveau du politique, au niveau de la direction générale, au niveau du dialogue social. Parce qu'il y a aussi des enjeux qui peuvent se poser à ce niveau-là. Prendre des décisions éclairées, faire des choix et les expliquer. On est dans des collectivités qui sont parfois confrontées à une difficulté des décideurs à décider, à expliquer les raisons de leurs choix. Faire la paix avec la complexité, ça rebondit un peu sur les choix. Ce sujet est complexe. Il oblige à faire des choix clivants, à faire des choix qui ne peuvent pas satisfaire tout le monde. Je crois qu'il faut faire face à cet enjeu-là. Après, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est mon côté com, parce que je fais de la com et RH aussi, c'est-à-dire développer la cohésion. Développer la cohésion, avoir un discours positif autour de ces enjeux-là, en valorisant notamment toutes les expériences positives et à impact qu'on met en œuvre au quotidien pour pour les usagers. Et accepter le droit à l'erreur, ce qu'on a tendance à oublier malheureusement trop souvent dans dans nos fonctionnements.
Merci. On a déjà cité effectivement pas mal de leviers et d'outils à disposition des RH, hein, qui ont effectivement tout un panel de possibilités pour accompagner la transition écologique, voire en prendre le leadership. Quel autre levier, en fait, on peut avoir à disposition que ceux qu'on a déjà cités, Christine, si vous voulez?
Oui, je voudrais en citer deux. La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et également le parcours de formation que l'on peut offrir aux agents. Alors, pourquoi la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences? Parce que ça illustre plusieurs des aspects valorisants, je dirais, pour la DRH. D'abord, son rôle pivot, parce que par définition, elle a besoin pour effectuer ce travail de la définition des besoins qui, elle, va lui être fournie, si je puis dire, par l'ensemble des autres services. Ce qui veut dire que, effectivement, c'est la quintessence, si je puis dire, du rôle de la fonction support de la DRH dans une projection vers l'avenir. Sont l'ensemble des autres directions qui sont appelées à un dialogue global avec la DRH, sur d'ailleurs pas simplement le sujet de la transition écologique, hein, sur l'ensemble des transition démographique, transition numérique, attente des usagers, modification du type de service public qu'on va leur offrir. Mais il faut absolument que la transition écologique, elle ait une place et une place importante dans cet exercice global. Et puis la formation, un parcours de formation que l'on offre aux agents, parce qu'on a parlé beaucoup de sensibilisation, de formation spécialisée, métiers qui permettent le passage à l'action, mais on a besoin dans l'avenir d'agents qui soient très compétents en matière de transition écologique, et ça se bâtit. Alors, il faut, enfin, dans l'idéal bien entendu, que la DRH puisse, notamment à travers les entretiens professionnels annuels, offrir aux agents, leur proposer de monter graduellement en compétences sur la question de la transition écologique, et je dirais dans un objectif qui n'est pas simplement au service de la collectivité ou du service dont on parle, de la structure administrative présente, mais aussi de l'ensemble de la fonction publique, parce que les agents, peut-être, ils vont être appelés à passer d'une structure à une autre, mais ce qui importe, c'est surtout qu'ils deviennent de plus en plus compétents sur la transition écologique. Voilà.
Merci.
Moi, déjà le recrutement d'experts, et aussi le recrutement de personnes pas expertes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, mais engagées. Je crois qu'il faut qu'on vraiment favorise l'engagement et qu'on aille chercher des gens, pas forcément compétents a priori, mais avec des compétences sociales affirmées, des compétences d'engagement au quotidien, parce que ça va demander beaucoup de travail, de transformation et d'engagement de la part des agents. Donc, premier point, celui-là. Le deuxième, j'évoquais la communication. Là, la communication, c'est la cohérence et la cohérence par rapport au discours, et veiller à la cohérence des orientations politiques et administratives. Mobiliser la communication interne à cette fin en veillant à ce qu'elle soit cohérente avec la communication externe me semble important pour que les agents sachent bien qu'ils agissent dans un cadre politique, au service de politique. Le deuxième, c'est il y a une approche que j'aime bien, c'est l'approche une seule santé, que vous connaissez sans doute, qui à la fois peut rayonner sur un territoire et aussi en interne. Je pense que les DRH pourraient tout à fait mobiliser ce type de démarche. en interne auprès de leurs collaborateurs. Et autre point qui me semble important, c'est la cohésion, le collectif, veiller au maintien des liens sociaux dans les équipes et dans les organisations.
Merci. Dernière question, plutôt mobiliser la question du dialogue social sur la transition écologique. On l'a déjà un petit peu évoqué, la gouvernance doit évoluer, doit faire un peu plus de place aux parties prenantes dans les organisations pour être plus pertinent sur les questions de transition écologique. Et du coup, le dialogue social doit aussi se réinventer. Donc, quelle place lui donner pour cette transition écologique et solidaire et naturellement faire retourner vers vous, Léo.
On l'a dit à plusieurs reprises, la transition écologique, c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre de mettre de côté. Hein. On est en train de le vivre aujourd'hui à échelle humaine et bien depuis une dizaine d'années. Et ça a déjà commencé à modifier nos modalités de travail. Donc, par exemple, les plans blancs dans les hôpitaux, le télétravail, l'incitation à la mobilité douce. Derrière chacun de ces exemples, il y a encore du dialogue social à toutes les échelles. De la mise en place des accords fonction publique à la mise en place dans les services. À la CFDT, nous, on est vraiment attentifs à la mise en place d'une transition écologique juste qui peut permettre à chacun de pouvoir agir sur son lieu de travail. Et le deuxième effet qui se coule, de pouvoir agir sur son lieu de travail, c'est qu'il y a plein d'agents qui, dans leur vie privée, ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'ils sont... contraints financièrement ou géographiquement et qui sentent bien qu'il faut faire quelque chose et qui sont soit dans l'éco-anxiété, soit au contraire dans l'hédonisme. Et du coup, faire quelque chose sur son lieu de travail, ça permet aussi de redonner du pouvoir d'agir aux gens et c'est pas important. Donc ça nécessite une connaissance premièrement des enjeux à venir. Donc ça, c'est tout ce qui est... scientifique, où on en est, quelle est notre empreinte, vers quoi on va. Un appui aussi sociologique qui est super important aussi, parce que juste donner, de dire aux gens ça va être de pire en pire et on s'en va, c'est pas terrible. Et on a vu, nous, dans nos formations entre militants, que juste faire une fresque, par exemple, du climat et rien derrière, on est ressorti, on avait un peu le bourdon. Hein. Donc vraiment, c'est super important d'avoir des leviers psychologiques à propos en fonction des catégories de personnes qu'on a devant nous pour pouvoir avoir les bons outils et les bons leviers pour les faire entrer dans la transition écologique. Et parfois, ça peut passer par... on commence par faire des éco-gestes, on commence par installer des petits ateliers de réparation ou leur proposer des petits ateliers... un peu ludique. Et après, il y a toute la partie opérationnelle qui est super intéressante. Donc ça, c'est vraiment l'échange de pratiques et ce que l'UNFPT et le LIER font, c'est-à-dire vraiment des problématiques ciblées fonction publique, quels enjeux, qu'est-ce qu'on en fait, et puis derrière, comment les agents peuvent s'en emparer. Mais aussi, et c'est ce que disait Christine, c'est vraiment de pouvoir proposer des approches mixtes dans la construction de politiques publiques, en s'appuyant vraiment sur l'expertise des agents en priorité, parce que c'est eux qui sont les mieux à même d'expliquer leurs gestes, c'est eux qui sont les mieux à même de faire des propositions qui sont en accord avec leur mission, et éviter qu'on se retrouve juste avec on fait ça et ça dégoûte tout le monde et plus personne ne va entendre parler de transition écologique. Concrètement, comment ça se traduit? En premier lieu, une volonté d'implémentation forte des compétences environnementales dans l'ensemble des instances de dialogue social, en formant et en outillant les militants et les élus CFDT. Et derrière ça, on a tout un appui opérationnel. Donc on a un réseau interne de référents transition écologique juste CFDT qui couvre tous les champs professionnels et tous les territoires, et qui est fort de plusieurs formations et ateliers. Donc on a fait la fresque du climat, on a rencontré des gens du Shift Project, on a rencontré des rapporteurs du GIEC, des sociologues des gens de la GPE, on a fait l'atelier d'automne, et donc on commence à avoir un certain bagage, et puis on a aussi les partenaires du pacte du pouvoir de vivre, et puis vous, hein, parce que le lire et une FPTE, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un appui très opérationnel, et on se nourrit beaucoup de vos travaux. Voilà.
Merci Christine.
Léonie a très bien parlé, donc, et puis en plus de ça, elle est je dirais, hyper compétente puisqu'elle parle de l'intérieur d'un syndicat qui a beaucoup d'influence. Je voudrais juste exprimer, je dirais, notre sensibilité à nous, associations, par rapport à ça. C'est que même si nos modes d'action peuvent être différents, il serait très contre-productif, à notre avis, qu'il n'y ait pas de convergence entre les deux. Parce que les organisations syndicales, elles ont un rôle à jouer qui est officiel, à travers les instances officielles de dialogue social, avec des représentants du personnel, et c'est très important à notre avis que les préoccupations de transition écologique passent par ces voies officielles, cette représentation officielle. Et puis, à l'intérieur du guide dont on vous parle, la DRH, ou service de la transition écologique, nous recommandons justement de faire des représentants du personnel des bénéficiaires prioritaires des formations sur la transition écologique, ce qui signifie une mobilisation bien entendu de la DRH pour faire des pas dans leur direction, et ce qui signifie aussi une disponibilité de la part des fameux représentants du personnel à recevoir ces formations. Et pour nous, l'idéal, ce serait aussi qu'on retrouve dans les mêmes formations les membres de la DRH, les agents de la DRH et les représentants du personnel, parce que ça voudrait dire qu'on fait tout de suite un progrès évident dans l'acquisition finalement d'une culture commune. Voilà.
Merci. Petite synthèse conclusive avant de vous passer la parole pour des questions. L'objectif vraiment de ces échanges, de cette table ronde, j'espère qu'on y a répondu, c'était de démontrer que vraiment les organisations publiques ont vraiment tout intérêt à s'intéresser aussi à elles-mêmes quand on parle de transition écologique, pas seulement aux politiques publiques qu'elles portent, mais vraiment à leur fonctionnement et à celles et ceux qui vont faire la transition écologique et solidaire. Donc les RH pour nous, c'est un excellent pivot. On a cité des leviers, je vais le redire, hein, mais les RH, elles ont la formation, elles ont l'orientation de la masse salariale. On va parler des questions de rémunération aussi, éventuellement variable avec la transition écologique. Est-ce que on récompense des efforts, des investissements collectifs, peut-être plutôt qu'individuels, pour faire la transition écologique? La réflexion sur l'organisation elle-même, quand on nomme une direction, on nomme un service, ça a du sens. Si vous avez une direction des services informatiques ou une direction du numérique responsable, c'est pas la même chose. Et ça, les RH, elles peuvent faire beaucoup de propositions en ce sens. Le temps de travail, on l'a abordé aussi, mais effectivement, que ce soit en termes de transition écologique, juste de... on fait un petit plaidoyer aussi pour peut-être revoir le temps de travail, ses modalités, son adaptation. Et puis l'adaptation vraiment au sens fort du temps de travail aux aléas écologiques qui se produisent déjà. C'est des questions que la DRH doit déjà intégrer. La prévention et la santé au travail, on a parlé d'une seule santé. Effectivement, demain, on a déjà eu des cas de zoonose au niveau mondial. On a déjà des canicules qui peuvent faire que les services publics ne fonctionneront pas de la même manière. La continuité du service public à 50 degrés pendant 2 mois dans certaines régions, ça va être vraiment quelque chose qui va impacter les RH. On a parlé du management, du dialogue social, bien sûr. On a abordé un peu la communication interne, parce qu'il faut aussi valoriser ce qui est fait, c'est-à-dire en interne on fait des choses, il y a des administrations qui se bougent plus, mais il faut que les agents qui sont employés le sachent aussi, qu'ils comprennent que leur employeur se bouge en fait, pour le coup. On n'a pas abordé l'action sociale aussi, je crois. Tous les agents publics bénéficient d'une action sociale et elle aussi, elle peut être repensée. Les avantages qu'on donne aux agents, les mutuelles, les bons cadeaux que vous pouvez avoir, voilà, ils donnent aussi une orientation de la consommation des agents. Donc c'est aussi des choses que les RH ont comme mission. Et voilà, on n'y pense pas forcément, mais oui, enfin, il y a tout un tas de leviers. On n'a même pas le temps de tous les citer, mais ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que les fonctions support, même au-delà des RH, peuvent et doivent contribuer à cette transition écologique par des finances aussi responsables, des moyens généraux sobres, un budget vert. Il n'y a pas que les ressources humaines. L'idée, c'est vraiment l'exemplarité des employeurs publics pour pouvoir faire prendre conscience à leurs agents, on parlait d'attractivité, faire prendre conscience à leurs agents qui vont dans le bon sens. C'est aussi pour nous la transition écologique et solidaire un bon moyen de régénérer la notion même d'intérêt général. En fait, elle est souvent malmenée, cette notion d'intérêt général. La transition écologique et solidaire, ça peut faire venir des gens dans la fonction publique, ça peut leur dire « mon métier a du sens », aussi parce que mon organisation m'a montré que elle n'était pas dans les effets d'annonce, mais qu'elle le pratiquait de manière très concrète. Voilà, donc ça doit se faire avec évidemment les managers, les agents, les partenaires sociaux. C'est vraiment un enjeu de sens et d'acceptabilité pour tout le monde. Et donc, on espère vous avoir convaincu que la DRH a un rôle majeur à y jouer.
Et puis on vous invite évidemment à prendre connaissance du guide dont on espère qu'on pourra le mettre la semaine prochaine sur nos sites internet à la fois du LIER et de FPTE. Ce guide, si vous voulez, c'est pas des instructions, il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut le prendre, je pense, comme un catalogue qu'on a voulu le plus exhaustif possible, justement dans cette idée de proposer des solutions en ayant à la base une foultitude d'exemples, de cas concrets, de services publics, qu'ils soient centraux, des agences de l'État ou des collectivités territoriales ou des hôpitaux qui les ont mis en pratique. Donc on pense qu'il y a une grande force justement dans l'exemplarité parce que à la fois, si vous voulez, ça propose une action particulière et en même temps ça conforte puisqu'on se dit si d'autres l'ont fait et ont pu le réaliser, ça veut dire qu'on peut le faire nous aussi, et puis on peut aussi, si jamais notre direction n'est pas convaincue, on peut dire, mais les autres, ils l'ont fait, donc nous, on peut l'essayer également. Voilà, c'est une panoplie d'exemples dans lesquels on peut puiser pour inspirer son action.
Voilà, effectivement, ce guide, il est donc 80 pages, de pur bonheur de lecture, évidemment. Ça peut être un peu technique, il s'adresse prioritairement au DRH, mais plus globalement aux décideurs, mais après, tout un chacun peut le feuilleter. Comme l'a dit très bien Christine, vraiment, pratico-pratique, on donne vraiment des conseils de mise en œuvre, et c'est ça vraiment qu'on voulait faire, c'était pas de rester dans de la théorie. Et même si vous n'êtes pas forcément dans les ressources humaines, si vous pouvez le pousser, en fait, tout simplement, l'envoyer à votre DRH, en fait, pour dire, si on fait la transition écologique, on a 12 chapitres, un chapitre temps de travail, c'est quoi le temps de travail et la transition écologique, c'est quoi la prévention et santé et la transition écologique, et avec effectivement plus d'une centaine d'exemples de collectivités, d'hôpitaux, de ministères qui ont fait des choses. C'est du très très concret, donc si vous avez la possibilité de le diffuser plus largement, surtout n'hésitez pas, en tout cas on verra très très bientôt.